C'est parfait.
Bon, alors voilà, c'est reparti. Quand ça veut, et quand ça veut pas, eh ben ça veut pas. Alors les amis, donc on est reparti. Donc je vous disais, on est en l'an 60, moins 63, et normalement, la situation devrait être parfaite. Nous sommes 100 ans après Hanouka, et donc l'État juif est remis en place. Comme je l'ai dit, il y avait un roi qui s'appelait Alexander Yanaï et sa femme Shlom Tzion. Shlom Tzion était une fille très bien, alors qu'Alexandre, lui, est moyen. Alexander Yanaï est devenu ce qu'on appelle Tzduki, sadducéen, et il a rejeté l'enseignement des rabbins, alors que Shlom Tzion, elle, était la sœur du chef des rabbins, Shimon ben Chattar. Enfin, je ne veux pas vous parler d'eux. Ce qui m'intéresse, c'est leurs enfants. Ils ont deux fils. Un qui s'appellera tout naturellement Hyrcanus numéro 2, et l'autre s'appellera Aristobulus numéro 2. Oui, bon, des noms qui ne nous intéressent pas vraiment, mais quand même. Parce que notre Alexandre va mourir. Et il se dit, bah, il n'y a pas de problème, j'ai deux enfants. Et vu que moi-même, je suis roi et en même temps Cohen Gadol, puisque je viens de la dynastie des Hashmonaïm qui ont pris le pouvoir politique et le pouvoir de la Kehouna Gedola, et donc je me dis, bah, il n'y a pas de problème, mes deux fils, un je vais le mettre roi, l'autre Cohen Gadol. Pas de problème, Hyrcanus sera le Cohen Gadol, Aristobulus le roi, et normalement, eh bien, on devrait vivre une période idyllique où il y a deux frangins qui gèrent le pays d'Israël, tant au niveau politique en matériel qu'au niveau spirituel de la Kedusha. Sauf que ben, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer pour une raison très simple. Le Cohen Gadol, il a envie d'être roi également, et le roi, il a envie d'être Cohen Gadol également, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, la situation terrible que malheureusement nous avons déjà vécu dans notre histoire, une guerre, une véritable guerre fratricide entre Aristobulus et Hyrcanus. C'est-à-dire des noms bien ancrés dans la culture juive, hein? Non, vous comprenez bien que l'ambiance grecque de l'époque de Hanouka a réussi à s'installer même après la victoire des Hashmonaïm. Quoi qu'il en soit, c'est une guerre, une véritable guerre entre deux frères qui va amener à notre destruction. Et ce n'est pas un vain mot. Véritablement, la guerre entre les deux, ce n'est pas une très grosse guerre au niveau de l'ampleur des conflits, mais elle va amener quelque chose d'énorme et de terrible. Parce qu'à ce moment-là, aucun des deux frères n'arrive à prendre le contrôle sur l'autre. Et donc, eh bien, les deux vont envoyer une lettre à un bonhomme qui habite en Syrie de l'époque. Il vient de conquérir, ben, l'Empire grec, si vous voulez, des Séleucides. Il est là en place, il est ultra puissant, il vient de débarrasser la Méditerranée de tous les pirates, il vient de faire des guerres à l'Est, il est vainqueur, victorieux de tout ce que tu veux, et il s'appelle Pompeius Magnus. C'est la première fois que Rome rentre sur la scène et sur notre histoire d'Israël. Les deux frères envoient une lettre à Pompée, Pompée le Grand, comme on l'appelle en Rome, et ils lui disent tous les deux, regarde, j'ai un petit problème avec mon frère, est-ce que tu voudrais pas venir m'aider, s'il te plaît? Et le problème, c'est que Pompée n'a absolument pas envie d'avoir une guerre fratricide dans la région où il se trouve. Il vient prendre fait et cause pour l'un des deux, en l'occurrence pour Hyrcanus, et c'est terminé. C'est terminé. Une fois qu'on a l'appui de Rome, ben c'est terminé. Mais je veux que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous avons invité les Romains à venir en Israël. Je ne sais pas comment on aurait fait l'histoire autrement, mais peut-être que les Romains ne seraient même pas rentrés en Israël si on ne les avait pas invités si gentiment. Et on sait ce que ça va amener. Effectivement, lorsque Pompée arrive, il prend fait et cause pour l'un des frangins, eh bien c'est terminé, tu m'étonnes, avec l'appui de la Légion romaine, il a vite fait de dégager son petit frère et c'est terminé. Ouais, sauf que bah, les choses vont aller très très vite. Les choses vont aller très très vite parce que Hyrcanus s'est mis en place, mais en fait c'est pas lui qui règne. Alors, je vais vous donner plein de noms. Des noms qui ne nous intéressent pas vraiment. Il y en a deux qui vont nous intéresser. Hyrcanus ne règne pas vraiment parce que celui qui règne, c'est son numéro 2. Il s'appelle Antipatros. En français, on dira antipater. De là est venu l'adjectif antipathique. Ah ouais, ça te dit long sur le bonhomme. Effectivement, cet antipater est fan des Romains. Il adore les Romains et il déteste les Juifs. Mais quoi, il est juif ou il n'est pas juif? Ben, pas vraiment. En fait, à l'époque du père de Hyrcanus, vous vous rappelez de mon Alexandre, il avait fait des grandes conquêtes. Et pendant ses conquêtes, il a conquis ce qui est aujourd'hui le Negev, et on va dire le nord de la Jordanie, enfin au niveau de Petra, comme ça, en Jordanie. Eh bien, toute cette région-là s'appelait à l'époque l'Édomie. Ça venait de Édom. Le peuple qui habitait là-bas était Édom. Lorsque Alexandre Yanaï a conquis cette région-là, eh bien, il a converti de force toutes les personnes au judaïsme. Cet Antipater a été donc converti de force. Il déteste le judaïsme, il déteste les juifs, il est fan des Romains. C'est lui qui est le patron. Il met ses fils, ses trois fils, au nord, au sud, au nord, au centre et au sud du pays, comme gouverneur, comme chef militaire, et voilà. Sauf que, dans un laps de temps encore une fois très court, Orcanus meurt, on ne sait pas trop comment, Antipater meurt, on ne sait pas trop comment, le général du centre meurt, on ne sait pas trop comment, et celui du sud meurt, on ne sait pas trop comment. Bon, vous avez compris que celui du nord a tué tout le monde. Et c'est qui ce celui du nord qui a tué tout le monde ? Eh bien, celui du nord qui a tué tout le monde, il s'appelle Hérode. Et ça, c'est un nom qui nous parle parce qu'on le connaît très bien. Hérode a fait massacrer tout le monde pour prendre le pouvoir central et devenir le roi des Juifs. Une fois qu'il a massacré tous ses opposants politiques, entre parenthèses, il a massacré également le dernier prétendant à ce qui pouvait être un retour des Hachmonaïm. Il s'appelle Alexander Aristobulus. Et il arrive ici, Ezra, Yohanan Aristobulus, et il arrive ici, il va se faire massacrer par Hérode, qui va lui couper la tête. Il semblerait d'ailleurs que ce soit de lui dont la Mishnah, dans le traité de Maseret Avot, nous parle, lorsque Hillel nous dit qu'il a vu un crâne, une tête, qui était là sur l'eau, et il a dit « Ne t'en fais pas, la roue tourne. » Eh bien, il semblerait que ce soit de cette tête-là dont on parle. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Yohanan Aristobulus a été tué par Hérode. Hérode l'a noyé, il lui a tranché la tête, et l'a noyé ensuite le corps et la tête dans sa piscine à Yericho. Oui, pas très glamour hein, ce matin. Hillel était à cette époque-là. Et il dit, ne t'en fais pas, la roue tourne. Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il fait, et celui qui a fait le mal, eh bien, ne t'en fais pas, il ne restera pas impuni. Quoi qu'il en soit, Hérode voit sa route vers le pouvoir complètement prête. C'est bon, il peut y aller. Il y a juste un truc qui manque, l'aval de Rome. Et oui, car à partir de maintenant, nous sommes en l'an moins 37, et ce sont les Romains qui sont les véritables patrons de la région, puisqu'on les y a invités il y a 20 ans. Donc maintenant, ils sont là. Ils sont là. Et donc, n'est plus la région de Petra. Oui, vous avez raison, tout à fait. Bien sûr que ce n'est plus la région de Petra. Je mets simplement en forme pour que les gens aient des repères géographiques. Et vous avez raison qu'à cette époque-là, Petra est déjà passée dans d'autres mains. Simplement pour qu'on ait des repères plus ou moins, qu'on sache de quoi on parle. Quoi qu'il en soit, eh bien, maintenant, il faut faire bonne figure auprès des Romains. Il faut que les Romains soient d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Pas de problème ! Hérode part à Rome. Il part à Rome pour se faire sacré roi des Juifs. Bon, il veut aller voir Pompée. Sauf que 20 ans se sont passés et Pompée n'est plus là. Eh bien oui, parce qu'à Rome, il s'est passé plein de choses. Alors, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Mais vous le savez comme moi, car vous êtes des fans de la première heure d'Astérix. Et donc, vous savez qu'en 50 avant l'ère chrétienne, eh bien, notre ami Jules César a conquis la Gaule. Bah oui, eh oui. Et donc, une fois qu'il a conquis la Gaule, eh bien, fort de son triomphe, il revient à Rome. Il revient, Pompée revient, et ensemble, ils se détestent, mais ils vont faire bonne figure, ils vont créer un triumvirat avec un autre bonhomme, Marcus Crassus, Vacol Besséder. Seulement, très rapidement, Jules va tuer Pompée, va tuer Crassus, il devient le patron. Seulement, le Sénat romain fomente un complot sous l'égide de Brutus qui va tuer César. Sur les marches du Sénat, Brutus devait prendre le contrôle. Il ne le prend pas, il n'est pas assez fort. Finalement, ce sera le général de César, Marc-Antoine, qui prend le commandement de Rome. Et c'est à ce moment-là qu'Hérode arrive. Il arrive, il vient voir Antoine et il lui dit « Bon, écoute-moi bien mon ami, tu es un soldat, je suis un soldat. Tu es un chef, je suis un chef. Je te comprends, tu me comprends. Toi, tu aimes le pouvoir et l'argent. » Eh bien, le pouvoir, tu l'as, l'argent, je te le donne. Et Hérode dit à Antoine, si tu fais de moi officiellement le roi des Juifs, je paye. Pas de problème. Effectivement, Hérode va piller les réserves du Beth-Amikdash, les réserves de toute la Judée pour donner son tribut à Rome. et Antoine va le faire officiellement sacré au Sénat de Rome, roi des Juifs en Judée. Ah ben voilà, c'est fini. Hérode devient le roi Hérode. Bon, il devient le roi Hérode, il est très copain avec Antoine, il lui fait même construire une forteresse à son nom, la Antonia au nord du Beth Amikdash. Mais il y a un petit problème. Eh oui, il y a un problème quand même dans l'histoire. C'est un problème qui est causé à cause d'une femme. Eh oui, il y avait bien une femme dans l'histoire. Le Rav Benishai nous a parlé de la grandeur des femmes juives. Eh bien, moi, je vous montre la bassesse des femmes ennemies du peuple juif. Il y a une femme qui est l'amante de Marc-Antoine, la pire ennemie de Hérode. Vous la connaissez très bien. Et je ne sais même pas si c'est vrai qu'elle avait un bonnet. Mais en tout cas, elle s'appelle Cléopâtre. Eh oui, Cléopâtre, reine d'Égypte, dernière descendante des Ptolémées. Enfin bon, on s'en fiche. Cléopâtre veut grignoter du terrain à Hérode. Hérode veut grignoter du terrain à Cléopâtre. Ils se détestent. Mais c'était sans compter. Sans compter le retour d'un Romain qui avait été nommé officiellement successeur de César, qui a fui pendant 3 ans, qui revient à la tête d'une armée énorme, il s'appelle Octave, et il déclare la guerre à Antoine. Bon, ça fait plein de noms tout ça, sauf que là, Antoine, il demande à Hérode, viens m'aider, et Hérode, il dit, attention, si je viens l'aider, mais que c'est l'autre qui gagne, j'ai tout perdu. Si je ne viens pas l'aider, mais que c'est Antoine qui gagne, j'ai tout perdu. Donc, il répond à son copain, je viens. Mais il vient tranquille, tu vois, Léat, il est pépère. Et il va arriver 3 jours après le combat. Car effectivement, Antoine va perdre. Octave gagne, il change son nom en Auguste Ier, devient empereur de Rome, premier empereur, l'Empire romain est créé, et Hérode dans tout ça, eh bien Hérode arrive devant lui et lui dit, regarde, tout le monde savait que j'étais fan d'Antoine, j'étais son copain, mais maintenant tu as gagné, tu es le roi, et Hérode se prosterne devant Auguste, Octave, et ça le fait kiffer, il lui dit, tu sais quoi, tu seras mon allié dans la région, je te donne une légion entière, tu fais ce que tu veux. Et à ce moment-là, Hérode devient officiellement le roi des Juifs sans aucune personne qui peut le détrôner. Et nous sommes dans une période terrible. Parce que c'est une période qui, d'un côté, voit un essor économique en Israël incroyable. On reconstruit la ville de Jérusalem comme une ville extraordinaire. Extraordinaire. Hérode va même reconstruire le Beth Amikdash. Oui, on parle toujours qu'on attend le troisième temple. Vous le saviez, ça? On prie toujours pour avoir le troisième temple. La vérité, on prie pour le quatrième temple et demi. Je m'explique. Le premier temple, vous le connaissez, malheureusement, il a été détruit par les Babyloniens en -586. Le deuxième temple a commencé à être mis en place par Zerubbabel, mais c'est de manière extrêmement succincte, et surtout par Ezra et Néhémia. Ezra et Néhémia vont construire le deuxième Beth Amikdash et c'est le parti. Seulement, Hérode, lorsqu'il arrive, nous sommes plus ou moins dans les années -20, -15, il décide de faire de ce Beth Amikdash numéro 2, qui était, il faut bien le dire, un Beth Amikdash ouné, un petit Beth Amikdash, et bien il décide d'en faire une construction grandiose, énorme. 13 années de travail, 13 ans, 20 000 ouvriers, un truc de malade. Le plus grand complexe qu'on va appeler religieux de tout le monde antique, un truc de fou furieux. Il le fait, alors ça va varier. D'après la Gemara, il y a un semblant de tchouva chez Hérode qui comprend qu'en éteignant la lumière d'Israël, parce qu'il a massacré la moitié du Sanhédrin, eh bien il a peut-être fait une boulette et que donc pour se faire pardonner, il va reconstruire le Beth Amikdash en plus beau. D'après les historiens, c'est simplement parce qu'il était mégalomane et que tout ce qui était attaché à son nom, il voulait le construire de manière majestueuse. Dans tous les cas, eh bien, Hérode met en place ce Beth Amikdash incroyable de technologie, de beauté, de folie, à tel point que nos sages qui n'étaient pas fans de Hérode diront « Celui qui n'a pas vu le deuxième Beth Amikdash, enfin, le Beth Amikdash de Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie. » Mais en vérité, pour le construire, il a dû raser celui de Ezra et Nehemia. Donc c'est pour ça que je parle, en fait, le Beth Amikdash d'Hérode est déjà le troisième. Bon, on le compte en étant le deuxième, parce qu'il l'a rasé juste pour le reconstruire. C'est, si vous voulez, comme on dit en hébreu, il a fait pinouille-binouille. Il a simplement tout reconstruit sur les ruines du dernier, mais sans interruption entre les deux. Pourquoi je parle donc de troisième et demi? Alors, le troisième a été créé déjà, Mais il y a eu beaucoup plus tard, et ça nous intéresse fort aujourd'hui, il y a eu un autre cas après la destruction de ce deuxième Beth Amikdash. Il y a eu une tentative de reconstruction. Un empereur romain qui voulait faire le pied de nez au christianisme qui était déjà né avant lui, il s'appelait Julien, eh bien, il a permis aux juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Ça n'était qu'une tentative, finalement, ça n'a abouti à rien. Dans tous les cas, Hérode construit un Beth Amikdash énorme et nous sommes dans une période terriblement conflictuelle parce que sur le plan de l'économie, de l'aspect extérieur, eh bien, il semblerait que Am Israël va très bien. Mais quand on regarde à l'intérieur, eh bien, la sinat rinam, la haine gratuite est présente partout. Vous vous rappelez que tout a commencé avec une guerre de deux frères. Mais la situation à l'époque du deuxième temple n'est pas tellement mieux. Certes, les chachamim sont là. Certes, il y a une Torah incroyable. Mais durant cette Torah incroyable, eh bien, nous avons une situation terrible. Vous connaissez tous cette histoire qui est l'histoire de la période. Alors Hérode mourra, et lorsqu'Hérode mourra en moins 4, eh bien, la situation ne va pas tellement changer, puisque de toute façon, Hérode était un roi pseudo-juif, mais dans tous les cas, à la solde de Rome à fond. Et donc, une fois que son fils n'arrivera pas vraiment à faire ses preuves, eh bien, les Romains vont tout simplement mettre des procurateurs en Judée, des gouverneurs, si vous voulez, des gens qui tiennent le pouvoir. Pour ce qui est, encore une fois, de la vitrine extérieure, tout a l'air d'aller bien. Les villes sont belles, reconstruites, modernes. Les juifs ont le droit de pratiquer leur religion et leur Torah. Mais comme je viens de le dire, ce n'est plus qu'une religion. Nous n'avons plus du tout d'obédience nationale. Nous ne pouvons plus nous prétendre les patrons de la terre d'Israël. Les Romains sont présents partout, la Légion est dans les rues. Et pour ce qui est de la Torah, elle est présente, mais elle est présente dans plusieurs bateaux midrashot. Et chacun ne parle pas à son copain. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous connaissez cette histoire qui est mentionnée dans le Talmud, qu'on raconte à Tisha B'Av, l'histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa. Vous savez, quand on raconte aux enfants cette histoire, eh bien, ils reprendront la phrase du Talmud qui dira « Al Kamtsa ou Bar Kamtsa Harva Yerushalem ». À cause de Kamtsa et Bar Kamtsa, Jérusalem a été détruite. Mais si on recommence à regarder l'histoire de plus près, l'histoire est révélatrice d'une époque. Nous sommes à un festin extraordinaire donné par ce monsieur Kamtsa, par ce monsieur, non, ce n'est pas, excusez-moi, je m'emporte, par ce monsieur dont on ne connaît pas le nom. Et c'est peut-être ça le plus important de l'histoire. Car il y a un monsieur qui s'appelle Ahou Gavra, l'homme dans le Talmud, qui fait un festin incroyable, il va inviter son ami Kamtsa, finalement il invite son pire ennemi, Bar Kamtsa. Mais attendez, pourquoi on ne sait pas qui c'est? On ne sait pas qui c'est, parce que ça peut être n'importe qui à cette époque. Il invite tous les Chachmei Yerushalayim. Tout le monde est présent. Tout le Mivami de Jérusalem, toute la haute société, tant les riches, les pouvoirs publics, mais tous les rabbanim sont invités. Ils sont tous là-bas. Quand ils voient ce Bar Kamtsa se faire humilier. Je ne dis pas que c'est un sadique, Bar Kamtsa est un rachat, on verra ça à la fin de l'histoire. Quand il va aller rapporter aux Romains. Mais lorsqu'il est à table et que cet homme, cet autre qui ne le veut pas, l'humilie, pourquoi les rabbins ne se lèvent pas et disent « Non, mais peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée de l'humilier comme ça devant tout le monde. » Non, je ne sais pas. Il n'y a pas de halakhot qui parle de kavod. On n'a pas de mishnayot qui nous parle de ça. Ce sont les rabbins de la Mishnah. Ils sont tous là. Alors, vous savez pourquoi ils ne se sont pas soulevés contre ce Ahou Gavra qui était l'homme le plus riche de la ville, peut-être. Je ne sais pas. On nous parle de Calva Savoie comme étant le plus riche. Alors, c'était le numéro 2. À mon sens, les rabbins n'ont pas élevé la voix contre cette humiliation publique, parce qu'il est très possible que chacun avait rendez-vous la semaine suivante dans son bureau. Vous savez, pas pour lui, mais pour avoir des troumottes, pour les mosdotes, pour les institutions. Ce n'est pas pour moi, chas v'shalom. C'est pour la Torah. Et je ne voudrais pas me le mettre à dos. Mais attendez. C'est de ça qu'on parle? C'est de cela qu'on parle? Ben oui, c'est de cela qu'on parle. C'est à cette époque-là que Rabbi Akiva n'est pas encore Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, moi je suis fan de lui. Bon, on est tous fans de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Rosh le Chachamim. Rabbi Akiva, à ce moment-là, il ne s'appelle pas Rabbi Akiva. À ce moment-là, de cette histoire de Kamtsa ou Bar Kamtsa, il s'appelle Akive. Il s'appelle Akiva. Il n'est que le PDG de la plus grande multinationale de l'époque. Oui, je vous vois venir. Vous allez me dire que Rabbi Akiva était berger. Non. Le Talmud nous dit qu'il était Roé Edrehe Kalba Savoie. Il était le chef de tous les troupeaux de Kalba Savoie, qui était l'homme le plus riche de l'époque. Et à l'époque, on était riche avec des biens de bétail. En d'autres termes, Rabbi Akiva était PDG de la multinationale la plus grande, la plus importante de l'époque. C'est pas un petit mec avec des cheveux longs et une flûte. Il est en costard-cravate, il signe des chèques toute la journée, Rabbi Akiva. Il habite à Jérusalem, il voit ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il dira que dans sa période où il n'était pas Talmid Chacham, c'est pas qu'il était ignare, il était en contact avec tous les Chachamim, mais il voyait que la Sina Trinam était tellement présente qu'il dit à l'époque, donnez-moi un Talmid Chacham et je le mordrai comme un âne. Ses élèves lui disent, Rabbeinu, comme un âne, peut-être que tu as exagéré, peut-être comme un chien, c'est déjà pas mal. Il dit non, un chien ça mord pas, c'est bien, parce qu'un chien ça mord et après ça lâche. Alors que l'âne, ça mord et c'est gna gna. C'est ce même Akiva qui deviendra Rabbi Akiva, qui dira une phrase extraordinaire. Vous connaissez la phrase de Rabbi Akiva? Ve'afta l'ra'acha kamocha, zeklal gadol batora. Bon, ve'afta l'ra'acha kamocha, c'est pas de Rabbi Akiva, c'est de Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans la Torah. Mais nous dit Rabbi Akiva, zeklal gadol batora. Alors évidemment, on peut comprendre tout à fait naturellement que c'est klal gadol batora. Ou alors, on peut comprendre que Zeklal, c'est un grand principe, Aftalerach Kamocha. Vous savez pour qui? Les Mishé Gadol Batora. Parce que le Gadol Batora, à l'époque de Rabbi Akiva, il a tendance à n'être sympa qu'avec celui qui est Gadol Batora de son équipe. Celui qui ne partage pas ses idées. Vous savez, nous sommes à l'époque de Hérode, c'est l'époque de Hillel et Shammai. Hérode, Hillel et Shammai, tout va bien entre eux. Mais quand ça suit, les élèves, comment s'appellent-ils? S'appellent Bet Hillel et Bet Shammai. Et Bet Hillel et Bet Shammai, leur machlokot, alors que celle de leur maître, Hillel et Shammai, n'était qu'à 3, voire 4. Machloket dans le Talmud, est-ce qu'il y avait 3 machlokot entre Hillel et Shammai ou 4? Mais rien du tout. Tout à fait. Je viens de lire ce que vous avez dit. Oui, tout à fait. C'est très possible. C'est très, très possible. Dans tous les cas, notre histoire ici nous apprend qu'à l'époque de Bet Hillel et Bet Shammai, c'est arrivé jusqu'à Shfichut Damim, Argu Echad Lasheni, à tel point que le Talmud dira que le jour où il y a eu la machloket entre Bet Hillel et Bet Shammai, c'est Ayom Shekashé le Israël, comme Ayom Shena Asaboa Egel, comme la journée où il y a eu le Vaudor. Or, je vous rappelle qu'à l'époque du Vaudor, il y a eu 3000 morts. Vous imaginez, on est parti d'une guerre entre deux frangins qui ont dû coûter la vie à pas mal de gens. Nous sommes maintenant avec une domination totale des Romains. On s'entretue dans la ville. Pourquoi? Parce que chacun pense qu'il a la vérité. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs lorsque deux rabbins n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce moment-là? Pas qu'il y en a un qui n'est pas un Talmid Chacham, les deux sont des géants de la Torah. Toute notre Torah, on leur doit. Ils s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer ben Orkano, c'est Rabbi Yehoshua Agadol. Comme Rabbi Eliezer ou Agadol? Eh bien, les deux vont se marloqueter. Bon, ils se marloquent tout le temps, pas de problème. Mais cette marloquette-là, qui a priori parle d'un sujet technique, va être en fait une des marloquettes les plus graves de l'histoire juive. Je parle évidemment de ce tanouro shel achnaï, de ce four qui était fait de rouleaux d'argile posés les uns sur les autres. L'un dit qu'il peut recevoir la touma, l'autre qui dit qu'il ne peut pas recevoir l'impureté. Et finalement, suite à cette machloquette d'idées, et encore une fois, les shem shamaim, les deux sont des tzadikim. Rabbi Eliezer n'acceptera pas l'avis de la majorité qui est contre lui. Mais lui, il sait qu'il a raison. Il a même amené des preuves surnaturelles, des preuves qui montrent qu'Akadosh Baruch Hu est d'accord avec lui. À tel point que la dernière preuve, après avoir fait montrer que le caroubier s'est déraciné, que l'eau est partie de bas vers le haut et pas du haut vers le bas, que les murs du Beth Amidrash se sont penchés, presque tombés. Finalement, il y a une bat-kol, une voix qui sort du ciel et qui dit « Malachem etzel Rabbi Eliezer, shalachak moto b'chol makom. » Pourquoi vous prenez la tête à Rabbi Eliezer? Il a toujours raison. finalement, Rabbi Yehoshua et les Chachamim n'acceptent pas la psika de Rabbi Eliezer et disent qu'il est à partir de maintenant menoudé, excommunié. Il ne fait plus partie du peuple juif. Une sanction absolument terrible. Zekaret, c'est le karet de la Torah. Venichreta, nefeshaim et amea. Imaginez ce que cela veut dire. Ça veut dire que si là, on a 9 juifs qui se réunissent et Rabbi Eliezer rentre dans la pièce, il n'y a pas minyan. C'est terrible. C'est pas chou terrible. Et c'est l'ambiance dans les rues de Jérusalem. Vous comprenez que lorsque les Romains, dans cette ambiance-là, parce que là je parle de Torah, mais de l'autre côté il y a un problème politique, les Romains, cette fois, ont décidé d'enlever l'autonomie civile au sein des Juifs. Et de plus en plus, la pression romaine est présente. Et de plus en plus, on leur interdit de faire des choses. À tel point que finalement, eh bien, on va décider tout simplement de commencer à préparer une solution contre les Romains. Cette solution, vous la connaissez, en l'an 66, va débuter la grande révolte contre les Romains. Une révolte terrible, parce que oui, nous avons un ennemi commun, les Romains, mais qu'en est-il du peuple juif ? Est-il front uni pour faire face à cette menace ? Que nenni, rien du. Comment des Tzadikim ne reçoivent pas le bat kol de Hachem? Mais ils reconnaissent, bien sûr qu'ils reconnaissent. Rabbi Yehoshua, il reconnaît la bat kol, il l'a très bien entendu. Mais il dit, lo vashamaimi. Voilà, tu nous as donné la Torah, Ribono Shel Olam. À partir de maintenant, ce sont les Chachamim qui doivent déterminer de la halacha. Agave, il a raison, Rabbi Yehoshua, que c'est aux Chachamim de décider. Bien sûr, même si. C'est pas vrai qu'on n'utilise jamais la bat kol, c'est-à-dire la prophétie, pour déterminer la halakha. Le fait que la halakha elle soit comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai, ça a été nifsak par une bat kol. Donc, ça veut dire que des fois c'est comme ça et des fois c'est comme ça. Rabbi Yehoshua, il accepte que c'est une bat kol, il n'y a pas de problème. Mais il dit, c'est pas parce que dans les mondes supérieurs, Rabbi Eliezer a raison, si nous, on n'arrive pas à comprendre ces arguments et qu'on pense que la halakha elle est autrement, eh bien c'est comme ça la halakha. Mais c'est ça d'Agamour, nous dira le Talmud plus tard, à propos de Rabbi Meir Balanes, élève de Rabbi Akiva, qu'il n'y avait pas dans sa génération aussi grand que Rabbi Meir. Et pourtant, la halakha n'est pas comme lui. Pourquoi ? Parce que ses chaverim, les autres rabbinim de son génération, n'arrivaient pas à comprendre la profondeur de ses enseignements. Donc même si on sait que c'est lui le plus grand, si ce qu'il dit est trop élevé, on ne comprend pas, on n'arrive pas à le traduire dans les faits, eh bien la halakha ne sera pas comme lui. Le problème n'est pas que Rabbi Yehoshua n'avait pas la même idée que Rabbi Eliezer. Le problème est que leur machloket a conduit à une dissension telle qu'on a été obligé d'amener à une excommunication. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, attention, le Nassi HaSanhedrin, le chef des rabbins qui est censé faire le shalom, à cette époque-là, s'appelle Rabban Gamliel. Ça va avoir son importance, vous allez voir. Les amis, la situation des Romains est terrible et nous décidons de sortir en guerre contre eux. Comme pour le Rav Kook, c'est trop profond. Le Rav Kook, à son époque, semble-t-il, n'était pas assez compris par les gens qui étaient à son époque. Effectivement, quand on regarde un petit peu le nombre d'étudiants à Merkaz Arav lorsqu'il a créé la yeshiva, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait peut-être à son époque, je ne sais pas, une dizaine de personnes qui comprenaient bien ce qu'il voulait dire. Mais le Rav Kook avait la grandeur de l'intemporalité. C'est-à-dire que ce que nous dit le Rav Kook est en fait la reprise de ce que disait Moshe Rabbeinu, de ce que disait Rabbi Shimon Bar Yochai, de ce que disait le Harizal, de ce que disait le Baal Shem Tov. Il a tout synthétisé pour donner un message d'éternité. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près 100 ans, un peu moins, après le Rav Kook, eh bien, 100 ans après le Rav Kook, tout le monde prend comme étant une évidence son enseignement, même si tout le monde ne veut pas encore le dire. Vous savez, j'ai la chance d'enseigner dans une autre chaîne YouTube sur Israël Torah, d'enseigner des petites histoires du Rav Kook, et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, mais en fait cet enseignement-là, on savait, on le connaissait, mais on ne savait pas que ça faisait du Rav Kook. C'est incroyable, en fait, il est très bien ce Rav Kook. Oui, il est très très bien ce Rav Kook, il n'y a aucun problème. Et effectivement, son enseignement à son époque était un ridouche extraordinaire. aujourd'hui, eh bien, de plus en plus de gens semblent comprendre que c'est cette Torah-là qui est la Torah de la résurrection et que plus personne ne s'y oppose. La situation, je reviens à mon histoire, la situation est terrible. Tout le monde ne se fait pas front commun contre les Romains. Imaginez-vous, il y a une grande partie du judaïsme à cette époque-là qui ne voit pas dans les Romains un véritable problème. Pourquoi être si... C'est pas grave. Autant demander aux Romains de nous donner une indépendance religieuse, mais de les laisser garder l'indépendance politique. Nous n'avons pas besoin d'être des hommes politiques. Nous sommes des Juifs. Des Juifs sont religieux. Nous n'avons aucun problème à vivre en exil, même en Israël, sous domination d'une autre puissance. Oui, il y avait des Juifs qui pensaient comme ça. Vous imaginez ? Quelle folie ! Comme il y avait des Juifs à l'époque grecque qui pensaient que c'était bien d'avoir les Grecs et que nous, on voulait simplement une autonomie religieuse. Comme il y a des Juifs aujourd'hui qui pensent que c'est peut-être mieux de ne pas avoir de pays indépendant où les rabbins doivent s'occuper de questions, pas seulement de questions de savoir si le schnitzel est cachère ou pas, mais de savoir est-ce que dans une période de corona, il faut aller en milouim ou pas. Mais ça, c'est une question fondamentale. Une question fondamentale qui est la question de la Torah qui redevient un peuple. Mes amis, à cette époque-là, donc, la guerre commence contre les Romains alors que le peuple juif est divisé. Un peuple juif divisé ne peut pas gagner contre les Romains. C'est une évidence. Et résultat des courses, au bout de 4 ans de combat, nous allons perdre. Nous allons tout perdre pratiquement. Tout ? Non. Certes, les Romains vont détruire la majorité du pays de la Judée. Certes, les Romains vont détruire le Beth Amikdash. Certes, les Romains vont détruire, massacrer, tuer près d'un million de personnes si on compte ce que nous dit Flavius Joseph. Mais il y a un homme qu'Akadosh Baruch Hu envoie pour sauver les meubles. Cet homme s'appelle Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai devient le chef du Sanhédrin. Il n'est pas de la dynastie de Hillel. Il n'est pas Rabban Gamliel, il n'est pas Rabban Shimon ben Gamliel, car ce dernier, Rabban Shimon Gamliel, va se faire tuer pendant la révolte contre les Romains. Rabban Yochanan ben Zakkai prend donc le contrôle du Sanhédrin en régence, si vous voulez. Et finalement, Rabban Yochanan ben Zakkai va faire quelque chose. Il va faire un choix. Un choix qui montre la grandeur du personnage, mais un choix terrible. Il se fait passer pour mort, se fait sortir de la ville par ses deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, qu'on a cités tout à l'heure, et vient au devant de Aspasianus, de Vespasien, au devant de Vespasien, pour lui dire « tu vas devenir César ». À ce moment-là, à Rome, c'est le balagan. Laissez tomber, je ne vous ai pas expliqué toute l'histoire romaine, mais c'est le balagan atomique. Et résultat des courses, finalement, 4 Césars vont se succéder en 2 ans. Au final, Vespasien sera élu au Sénat comme étant César. Et au moment où Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit « tu vas être César », il y a un coursier qui arrive de Rome qui lui dit « tu viens d'être élu César ». Voilà. Alors Vespasien, il dit « tu m'embouches un coin, monsieur. Bon, demande-moi ce que tu veux ». Et il demande 3 choses. Yavne, la ville de Yavne ne la détruit pas et laisse les Chachamim s'y installer. Donne-moi également un médecin pour Rabbi Tzadok qui depuis 40 ans jeûne pour qu'il n'ait pas la destruction de Jérusalem. Ça a raté. Et ne tue pas la dynastie de David Améler pour que notre espoir qu'un jour peut-être ne soit pas détruit. Mais qu'est-ce qu'il ne demande pas ? Il ne demande pas Jérusalem. Jérusalem sera détruite par le fils de Vespasien, Titus. Le Beth Amikdash sera consumé. Pourquoi n'a-t-il pas demandé Jérusalem ? Vous savez, il y avait un homme qui a été dans la même situation que lui, des années auparavant, 700 ans auparavant. Il s'appelait Chizkiyahu Melech Yehuda. Pardon, j'ai pas eu le temps de voir. Donc, si vous voulez remettre la question, non, je ne pourrais pas m'y intéresser.
Vous pouvez cliquer dans Converser en bas où la question apparaît.
Attention, je clique dans Converser. Ah ouais, attends. Si tu me mets des problèmes, participants. Non, c'est pas ça. Bon.
Et ou Kodem Avarlo, si vous savez la mout.
Ah, c'est tout à fait vrai. Okay. C'est tout à fait vrai. Vous avez totalement raison. quoi qu'il en soit, mais je vais pas faire toute l'histoire dans tous les détails, parce que le Rav Cherki arrive dans 10 minutes, et il faut que j'arrive à mon histoire. Mais Kitsour, Rabotai, à ce moment-là, eh bien, il ne demande pas Jérusalem. 700 ans auparavant, il y avait un homme qui s'appelait Chizkiyahou, roi de Judée, qui était dans le même cas, avec un ennemi, Sanhérib, qui faisait le siège de Jérusalem. Et il y avait des gens également dans son pays qui voulaient faire la paix avec les Assyriens pour avoir le sauvetage de ce qui pouvait l'être. Et Chizkiyahou dit « Non, moi je me battrai corps et ongles, bêtes et ongles, corps et âme contre l'envahisseur, je ne le laisserai pas arriver. » Et Akadosh Baruch Hu va l'aider. Finalement, eh bien, les Assyriens sont repoussés. Pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai ne fait pas la même chose? Eh bien, tout simplement parce que Chizkiyahou était dans une époque de Géoula, alors que Rabban Yochanan ben Zakkai comprend que l'époque de l'exil est en train de poindre le bout de son nez. Et donc, il décide de sauver les meubles. La preuve qu'il a bien agi, c'est qu'il a été tourmenté par cela toute sa vie, mais qu'à la fin de sa vie, le Talmud dans le traité de Brachot nous raconte que lorsqu'il va mourir, il dit à ses élèves, préparez une chaise pour Chizkiyahou Melech Yehuda qui vient me chercher, on va être voisins de palier au Gan Eden, semble-t-il, pour l'éternité. Deux personnes qui ont réagi complètement différemment, mais dans le même esprit de sauver le peuple juif. L'un dans une époque de construction, où il comprend qu'il faut se battre pour garder la construction, comme nous sommes dans cette époque-là aujourd'hui, comme ce qu'on avait vu la semaine dernière, et un qui était dans une époque de destruction, il le savait, et il fallait sauver les meubles. Rabbi Yochanan ben Zakkai sauve le judaïsme en finalement créant un judaïsme temporaire, sans Beth Mikdash et sans Jérusalem. Le problème, c'est que le peuple juif doit tout d'abord comprendre quelle est la chose qui lui a manqué pour battre les Romains, la chose qu'il va avoir besoin pour poursuivre son identité dans cet exil et pouvoir en sortir. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le virus qui nous a consumés de l'intérieur, ce n'était pas le corona à l'époque, c'était cette haine entre les juifs. Que si on ne pense pas pareil, eh bien on n'a pas le droit d'être ensemble. Quelques 60 ans plus tard, après la destruction du Temple, après que les Romains nous aient fait tout le mal qu'ils pouvaient nous faire, eh bien ils ont décidé que ce n'était pas terminé. Ils ont décidé que de plus en plus la pression romaine sur les Juifs en Judée serait présente. À tel point que finalement, en l'an 132, eh bien, il y a un nouvel empereur romain qui s'appelle Adrien qui fait des décrets antisémites, les premiers véritables. Parmi eux, eh bien, on va reconstruire Jérusalem comme une ville romaine, Aelia Capitolina. On va même construire un temple de Vénus à l'époque, à l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, à Botaï. À ce moment-là, le peuple juif, alors que pendant la grande révolte, 60 ans plus tôt, n'était pas uni. Au sein de la révolte, il y a eu des guerres fratricides. Non, je ne pense pas que le problème réside encore aujourd'hui. Je vais y arriver dans 3 minutes et demie. Alors qu'au sein de la grande révolte, il y a des juifs qui se sont entretués à Jérusalem. Les Romains n'étaient même pas encore dans la ville qu'on s'entretuait entre nous. À l'époque de la révolte de Bar Corva, eh bien, tout d'un coup, c'est tout le peuple qui se soulève. Tous, oui. Et vous vous rappelez, c'est là que je veux en venir, à ces frères d'armes qui sont la réponse aux guerres fratricides qu'on a évoquées. Eh bien, vous avez, on va le lire dans moins de 10 jours à peu près, on va lire ce Maasé de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yehoshua. Ah tiens, ils sont de nouveau ensemble, alors qu'il a été excommunié. De Rabbi Eliezer ben Azaria, qui est devenu le Nassi à Sanhedrin entre-temps. De Rabbi Tarfon, de Rabbi Akiva, qui sont tous réunis à Bnei Brak. Et la question, c'est pourquoi ils sont tous à Bnei Brak? Pas que j'ai quelque chose contre Bnei Brak, mais s'ils ne sont pas à Jérusalem, c'est qu'on est bien conscient que c'est après la destruction du Temple. Et s'ils sont à Bnei Brak, le seul qui habite là-bas, c'est Rabbi Akiva. Il est le plus jeune de tous. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua sont ses maîtres à lui. Rabbi Eliezer ben Azaria ben Nassi Sanhedrin, Rabbi Tarfon est l'ancien, le Zaken de la Chaboura. Pourquoi tout le monde va chez Rabbi Akiva? Et pourquoi, vous connaissez la suite du film, les élèves viennent leur dire « Rabotenu, Yazman, Kriat Shema Shacharit ». Pourquoi ils ne sont pas capables de voir que le soleil s'est levé? Eh bien, vous le savez, parce que ces 5 rabbins se sont réunis, ont fait fi du nidouille de l'excommunication de Rabbi Eliezer, il revient dans l'équipe, parce qu'il s'agit maintenant de se réunir et de préparer la révolte de Bar Corva. Tout le monde vient à Bnei Brak chez Rabbi Akiva, car Rabbi Akiva, comme nous dira le Rambam, est l'écuyer de Rabbi Akiva et de Bar Corva, et le soutien moral numéro 1 de celui qui a pour objectif de ramener l'indépendance et la Géoula au peuple d'Israël. face à ce problème-là, eh bien, ça y est, on a compris qu'il faut tous s'unir, même ceux qui ne pensent pas pareil. Et effectivement, dans la révolte de Bar Korba, c'est tout le peuple qui va se soulever, ce qui va faire qu'on va pratiquement réussir. On va gagner la première année de la bataille contre les Romains. Finalement, les Romains viendront avec 14 légions, 14 légions, quand vous savez qu'une légion, c'est 15 000 hommes. Je vous laisse faire le calcul. Des forces incommensurables, et finalement, eh bien, la guerre de Bar Korba va nous laisser avec une destruction terrible. Terrible, certes, mais avec une prise de conscience que rien ne doit pouvoir briser l'unité du peuple juif. Juste après la guerre de Bar Korba, une partie des juifs qui avaient décidé de se désolidariser du reste du peuple, qui avaient même été des délateurs, qui avaient même été des gens qui ont prêté main forte aux Romains contre nous, eh bien, ont été sortis du peuple juif, c'était les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont été sortis du peuple juif avec Birkat Haminim parce qu'ils avaient décidé de prêter main forte aux Romains contre nous. Non, après la guerre de Bar Korba, eh bien, les Juifs qui ne pensaient pas pareil ont décidé de s'unir pour devenir des frères d'armes. Alors oui, nous n'avons pas réussi à battre les Romains. Oui, la guerre de Bar Korba a signé le début véritable de l'exil. Mais il a signé un début d'exil dans lequel, eh bien, on a développé durant 2000 ans une entraide fondamentale au sein même du peuple juif. Oui, avec des différences. Oui, avec des creusets qui se sont creusés au fur et à mesure des générations, de par l'éloignement, mais avec une solidarité complète dans les moments de drame que notre peuple a vécu durant ces 2000 années. À l'époque du Tanakh, à l'époque de ce deuxième temple dont on a parlé, eh bien, lorsque ça allait mal, eh bien, ça ne faisait pas en sorte que le peuple juif se réunisse. Durant 2000 ans d'exil, nous avons gardé avec nous les leçons du passé. Que lorsque tout va mal et l'exil, c'est quelque chose qui va mal, eh bien le peuple juif s'unit. Le peuple juif est ensemble dans la douleur. Le paroxysme de cet ensemble dans la douleur, c'est lors de la Shoah, évidemment. Et lors de la Shoah, je termine par cette histoire extraordinaire que je raconte souvent, que nous sommes en novembre 1944, à Auschwitz arrive un convoi de juifs de Hongrie qui sont mis pour une partie d'entre eux dans un baraquement où il y avait des juifs de Salonique, des Hongrois ashkénazes avec des séfarades de Salonique, pendant 5 jours. Ces juifs qui vont être dans le même baraquement ne vont pas se parler parce qu'ils vont avoir peur les uns des autres, ne se connaissant pas. Les Hongrois pensent qu'un juif, c'est un mec qui est blanc, qui a une barbe et qui parle en yiddish, alors que les juifs de Salonique pensent qu'un juif, c'est un mec qui parle avec les mains, qui a une moustache et qui est bronzé. Ils ne vont pas se parler. Le vendredi soir, d'un côté et de l'autre du baraquement, ils vont entendre des airs différents, mais ils vont reconnaître les Hadodi. Ils vont se rendre compte qu'ils sont tous juifs, et le lendemain, ils partiront tous ensemble, Shabbat, à la chambre à gaz, ensemble. Le Rav Israël Meir Lao, grand rabbin d'Israël et survivant de la Shoah, dira, à propos de cette histoire, que dans la Shoah, le peuple juif a montré plus que jamais qu'il était capable de mourir ensemble. Mais le défi de la pré-Shoah, notre défi, c'est de montrer à quel point le peuple juif, lorsque tout va bien, et c'est notre cas, lorsque nous avons un État fort, lorsque nous avons une identité forte, eh bien, est capable de vivre ensemble. Vous me dites que nous avons des dissensions, les amis. Le fait que nous soyons capables de faire cette journée d'études aujourd'hui montre à quel point ces dissensions ne sont que futilité. Le fait qu'on soit capable, et je dis une chose absurde, qu'on soit capable d'étudier Ashkenaz et Sépharad ensemble. C'est l'évolution de notre Géoula. Car pendant des années, ce n'était pas possible. Un, parce qu'on était séparés géographiquement, mais deux aussi idéologiquement. Aujourd'hui, nous avons fait un pas énorme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à faire. Bien sûr qu'il y a encore des choses à faire, particulièrement en Israël. Mais encore une fois, dites-vous que tous les problèmes que nous avons en interne ne font que révéler une vitalité extraordinaire du peuple juif. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ont réussi à se réunir dans ce fameux Maasé pour préparer la révolte contre les Romains. Et je vais vous dire mieux que ça, peut-être que plus que la révolte contre les Romains, puisque la révolte, à proprement parler, c'était Bar Korba qui l'a préparée. Nos rabbins étaient déjà des vieux personnages qui ne pouvaient pas prendre les armes. Donc qu'est-ce qu'eux préparaient? Eh bien, ils préparaient l'unité du peuple juif de l'après. Ce Leila Seder, que je ne sais même pas si c'était Leila Seder, de ces 5 rabbins qu'on parle dans la Haggadah, montre l'unité par-delà tous les clivages. Car il n'y avait pas plus grand clivage qu'entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Mais il montre que lorsque l'identité d'Israël, lorsque le destin collectif du peuple juif est en jeu, eh bien aucun clivage ne saurait être plus fort que notre identité. C'est ce message qui nous a porté durant 2000 ans, qui a fait que même lorsque nous étions au Maroc, au Yémen, en Pologne, eh bien une chose a uni le peuple juif. Je termine par là, je ne veux pas prendre sur le Rav Cherki. Je termine par là en disant ma dernière phrase. Vous savez, pendant 2000 ans, ce qui a sauvé les juifs en tant qu'individus, c'était la Torah et les mitzvot. Car ce qui était un juif, c'était celui qui pratiquait, qui était autour du rabbin. Aujourd'hui, on doit se prendre conscience que pendant 2000 ans, ce qui a gardé l'identité du peuple juif, pas les juifs individuellement, mais le peuple juif, c'est que ce soit au Maroc, au Yémen, en Pologne ou ailleurs, eh bien les juifs ont toujours dit, ce soir du Seder, l'an prochain à Jérusalem, quel que soit leur clivage, quels que soient leurs idéaux, eh bien ils ont dit, nous avons un idéal qui est de revenir reconstruire notre identité ensemble. C'est là la raison de la mitzvah principale, puisqu'on n'a pas encore le Korban Pessah. La mitzvah principale de Pessah est de raconter l'histoire. Et si on se pose la question pourquoi la mitzvah n'est pas d'étudier l'histoire, la réponse est très simple, parce que s'il s'agissait d'étudier, eh ben on serait déjà en train de se disputer comme on se dispute au Beit HaMidrash. Mais la mitzvah de cette soirée de Pessah, c'est de raconter l'histoire. Et lorsqu'on raconte l'histoire, eh bien on se rend compte que ni Paro, ni les Romains, ni les nazis n'en avaient quelque chose à faire de savoir si tu étais Sfarad, Ashkenaz, religieux par religieux, de gauche, de droite, et ainsi de suite. Ils avaient quelque chose contre le peuple juif. C'est ce peuple juif qui s'est réuni durant 2000 ans d'exil et qui a réussi à recréer son identité. Ken, qui a réussi à recréer son identité et son unité. Alors oui, nous avons encore des dissensions, certes, mais si vous regardez le prisme de l'histoire, eh bien vous vous rendrez compte...
Fison là qui est en train de discuter.
...que nos problèmes actuels sont beaucoup, beaucoup moins problématiques qu'ils ne l'étaient à l'époque. Nous avons réussi à reconstruire cette identité unie et c'est grâce à cela que nous réussirons ensemble à reconstruire, comme on a dit, le troisième et demi Beit HaMikdash, Bemera Be'amenu. Amen. Chag Sameach à tout le monde.